VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kidza en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. Vous écoutez la troisième édition de la soirée. C'est le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. D'abord, les points qui dominent l'actualité de ce mardi 21 mars 2017. RDC, l'UDPS claque la porte des discussions pour la mise en application de l'accord du 31 décembre.
Le point d'achoppement étant le mode de désignation du Premier ministre.
Nous retrouverons Walter Nkoy à Kinshasa. Le Cameroun rapatrie de force plus de 2600 réfugiés nigériens installés dans le nord du pays. Marine Le Pen, leader de l'extrême droite française, reçue au Tchad par le président Idriss Déby Itno. Washington et Londres interdisent ordinateurs et tablettes sur des vols directs venant de 8 pays du Moyen-Orient vers ces pays. Les autorités invoquent un risque d'attentat terroriste. Et à suivre après le journal L'économie et les sports. RDC, le dialogue politique évolue en dents de scie. L'UDPS, le parti du défunt Étienne Tshisekedi, s'est retiré des discussions visant à mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016. Le rassemblement accuse le camp du président Joseph Kabila de bloquer le processus de désignation du Premier ministre. Les précisions de Walter Nkoy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pas d'avancée majeure depuis la reprise des travaux une semaine déjà écoulée. Le point d'achoppement étant le mode de désignation du Premier ministre. L'ancienne majorité présidentielle continue d'exiger une liste des trois noms au dépens de la proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui avait proposé que le nouveau leadership du rassemblement en parle directement avec le chef de l'État pour faire avancer les choses. L'autre point important non encore évacué est celui relatif à la répartition des portefeuilles ministériels. La famille politique du chef de l'État voudrait avoir la mainmise totale sur ses portefeuilles. Une position réfutée par les autres délégations en pourparlers au centre interdiocésain de Kinshasa. Par ailleurs, le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo, a affiché son optimisme pour annoncer la fin des travaux lundi prochain. Entre-temps, le président de la CENCO, Monseigneur Marcel Outembi, se trouve au siège des Nations Unies à New York pour donner plus d'informations sur ce dialogue censé sortir la RDC de la crise politique. Kinshasa, Walter Nkoy de Top Congo pour VOA Afrique.
Paris a mis en garde aujourd'hui contre des réductions drastiques de la mission de l'ONU en RDC. Ceci équivaudrait à jouer avec le feu compte tenu des turbulences électorales. Mais le renouvellement du mandat de la MONUSCO doit passer par un examen de la nouvelle administration américaine qui veut réduire ses contributions aux opérations de paix de l'ONU. Au Congo-Brazzaville, la justice a confirmé aujourd'hui la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Paulin Makaya. Il est poursuivi pour incitation au trouble à l'ordre public. En octobre 2015, M. Makaya organisait une manifestation non autorisée. Il s'opposait à un référendum constitutionnel qui a permis au président Denis Sassou Nguesso de se présenter à nouveau à la présidentielle de mars 2016 après 32 ans de pouvoir. Le centre de Mogadiscio, secoué aujourd'hui par une puissante explosion près du Théâtre National. Au moins 5 personnes sont mortes et 10 autres blessées. Cet attentat à la voiture piégée intervient le jour même de l'annonce de la formation du gouvernement. Le nouveau Premier ministre Hassan Anne Kaile a nommé 26 ministres dont 6 femmes. Il a fallu près d'un mois de tractation politique pour aboutir à ce résultat. Et à Kano, au Nigeria, 17 personnes ont trouvé la mort hier dans une attaque contre une communauté rurale du centre du pays. Les victimes sont pour la plupart des femmes et des enfants. Des hommes armés venus à moto et voiture ont ouvert le feu sur le marché de la localité avant d'incendier des bâtiments. Le bureau d'Amnesty International à Abuja, dans le viseur de manifestants. Hier, un groupe a demandé à l'Organisation internationale de quitter le Nigeria dans les 24 heures après avoir barricadé son bureau. Le CERAP, Socio-Economic Rights and Accountability Project, demande aux autorités d'ouvrir une enquête approfondie sur ces attaques et de garantir la sécurité de son personnel. L'armée a récemment accusé Amnesty International de vouloir déstabiliser le pays. En Guinée, des organisations de défense des droits de l'homme saluent des avancées dans ce pays, mais elles estiment que beaucoup reste à faire pour consolider notamment l'état de droit. Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle en France, est arrivée aujourd'hui en N'Djamena et doit rencontrer le président Idriss Déby Itno avant de visiter demain les militaires français de l'opération Barkhane, chargés de la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel. Au Cameroun, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dénonce le rapatriement forcé de plus de 2600 réfugiés nigériens. Ils étaient installés dans le nord du pays. Le Cameroun craint des attaques de Boko Haram. Le point avec John Lyndon.
D'après Babacar Balok, porte-parole du HCR au Nigeria, les réfugiés qui sont renvoyés de force ont expliqué que les troupes camerounaises les embarquaient contre leur gré sans leur laisser le temps de rassembler leurs affaires. Il a souligné que ces renvois de force sont contraires au droit international. Le HCR s'est dit particulièrement préoccupé par le fait que ces rapatriements forcés, qui semblent être motivés par des questions de sécurité, se poursuivent alors que l'agence de l'ONU a signé le 2 mars avec le Cameroun et le Nigeria un accord pour le retour volontaire des réfugiés nigérians. Le Cameroun héberge environ 85 000 réfugiés nigérians. L'insécurité persiste dans des zones du nord-est du Nigeria et l'accès aux services de base reste limité, a expliqué Babacar Balok. La crise affectant la région du lac Tchad, que les Nations Unies ont qualifiée de plus grande crise sur le continent africain, avec plus de 2,7 millions de personnes déplacées, donc 200 000 réfugiés.
John Lyndon. En Côte d'Ivoire, le réquisitoire contre l'ex-première dame Simone Gbagbo sera prononcé lundi prochain. C'est le procureur au procès qui l'a annoncé. Madame Gbagbo est jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité. Les avocats de la défense pourraient boycotter l'audience, sauf revirement de dernière minute, ne feront pas de plaidoyer. Le premier ministre désigné du Maroc a entamé aujourd'hui des négociations avec les principales formations politiques. C'est pour former un nouveau gouvernement et sortir de 5 mois d'impasse. Arrestation dimanche d'un fondateur de la Ligue djiboutienne des droits humains, Omar Ali Ewado, alors qu'il se rendait à une mosquée proche de son domicile. Selon l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui a révélé aujourd'hui cette information, les raisons de son interpellation ne sont pas connues.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump attire de nouveau l'attention par une mesure d'interdiction. Il vise cette fois les ordinateurs portables et tablettes. Ces outils informatiques ne sont plus admis en cabine sur les vols de plusieurs lignes aériennes directes à destination des États-Unis. N'est-ce pas, Gaby Dorsil?
Cette mesure affecte environ 50 vols quotidiens de 9 compagnies en provenance de 10 aéroports de pays arabes et de la Turquie, tous alliés ou partenaires des États-Unis. Le gouvernement de Donald Trump invoque un risque d'attentat terroriste et accorde à ses compagnies 4 jours à partir de ce mardi 7h GMT pour qu'aucun passager ne rentre en cabine avec des appareils électroniques plus gros qu'un téléphone portable. Les laptops et autres engins électroniques devront voyager dans la soute à bagages. Washington n'a pas fourni d'explication, mais les journalistes parlent d'une menace provenant du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, très actif au Yémen. Cette décision du secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, intervient dans la foulée d'une interdiction temporaire d'entrée sur le sol américain, affectant les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans, ainsi que tous les réfugiés, une mesure bloquée jusqu'à présent par la justice fédérale.
À son tour, le Royaume-Uni interdit ses ordinateurs et tablettes en cabine sur les vols en provenance de 5 pays arabes et de Turquie. D'autres pays comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada examinent la possibilité de prendre la même mesure. En revanche, l'Allemagne ne l'envisage pas actuellement. Les États-Unis rassemblent demain les 68 pays qui se battent contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le président Donald Trump a promis de démolir les djihadistes malgré une coalition affaiblie par des désaccords stratégiques. Et le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, ne se rendra pas à Bruxelles en avril à une réunion de l'OTAN. En Haïti, les députés approuvent le nouveau gouvernement à l'issue de 19 heures de discussion. Les élus ont tiré à boulets rouges sur le projet présenté par le Premier ministre qui manque de détails sur son financement, comme le dit Anastasie Toudièche.
Guy Lafontan, le nouveau chef du gouvernement haïtien, a répondu aux questions toute la nuit avant d'obtenir le feu vert des 95 députés. 6 députés ont voté contre son projet de politique générale et 2 se sont abstenus. La semaine dernière, le Sénat avait offert son vote favorable. Le pays a un nouveau gouvernement plus d'un mois après l'investiture du président Jovenel Moïse. Médecin inconnu de la scène politique, M. Lafontan a formé une équipe de novices avec quelques technocrates. 18 nouveaux ministres, dont 5 femmes, vont donc se mettre au travail. Face à une inflation qui dépasse les 14% et une dévaluation effrénée de la monnaie nationale depuis 4 ans, le Premier ministre prône une rigueur budgétaire et la lutte contre la corruption. Vous promettez des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'électricité, et d'où viendra l'argent ? Se demande Kourolo Loiseau, député de la petite ville de Dame-Marie, ravagée par le cyclone Matthew en octobre.
Selon l'ONU, l'humanité a fait des progrès spectaculaires dans son développement en un quart de siècle. L'ONU avertit que les conditions météorologiques et climatiques extrêmes se poursuivent en 2017. Le réseau social américain Twitter a suspendu 376 890 comptes sur les 6 derniers mois pour apologie au terrorisme. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous retrouvons Jacques Aristide dans l'actualité économique en Afrique. C'est la Muniteco.
Réinventer un nouveau business model africain, c'est l'appel lancé à Genève lors de la 5e édition du Africa CEO Forum. Plus de 1100 participants de 43 pays, dont 40 ministres et 2 chefs d'État, prennent part à ce rendez-vous annuel qui prend fin aujourd'hui. Pour Amir Ben Yamed, président et fondateur du Forum, il est urgent de repenser le business model africain car la croissance moyenne sur le continent ne cesse de tomber. Et plus inquiétant encore, d'après lui, les 2 premières économies du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud, sont notoirement sinistrées. À cette occasion, le Tanzanien Mohamed Dewji du groupe Mohamed Enterprise Tanzania a remporté le prix CEO of the Year et la Sénégalaise Anta Babaka Ngom Batili de l'entreprise Sedima a été élue Young CEO of the Year. 24 millions d'euros pour accélérer l'électrification du continent africain, un projet qui s'insère dans le cadre de Electrify, une initiative de financement de l'Union européenne. Elle vise à améliorer l'accès aux énergies renouvelables, notamment dans les régions rurales mal desservies. 1 million de foyers africains devraient ainsi en bénéficier. Plus de 30 000 jeunes sénégalais vont bientôt recevoir une formation afin de développer les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi ou monter une entreprise. Il s'agit du projet Amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat au Sénégal qui se concentre sur 200 écoles du secondaire et 50 écoles de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans 6 des 14 régions du pays. Le projet à hauteur de 15 millions de dollars va s'échelonner sur 5 ans.
Regard sur l'espoir avec Nicolas Pino. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
En football, la Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur.
L'ancien international belge Marc Wilmots a été nommé sélectionneur des éléphants selon une annonce de la Fédération ivoirienne de football. Il succède au Français Michel Dussuyer, remercie après son échec dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. C'est la première aventure africaine de Wilmots, sélectionneur des Diables Rouges de Belgique de 2012 à 2016. Wilmots, 48 ans, avait été limogé à la suite de l'élimination des Belges en quart de finale de l'Euro 2016. On écoute tout de suite le vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté.
Comprendre que c'est quelqu'un qui a quand même fait 3 ans comme adjoint en Belgique et puis 4 ans avec l'équipe nationale. Et nous avons vu sa progression avec l'équipe nationale de Belgique. On a vu comment il a pu faire évoluer ses équipes, qui est passé de la 53e place en 2012 à la première place au classement FIFA. On a vu comment il a intégré des jeunes joueurs dans son équipe, parce que ça, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes dans une phase de reconstruction. Il y a des anciens qui sont là, qui vont partir. Il va falloir intégrer des jeunes joueurs dans notre équipe nationale. Et ça, il a réussi en Belgique, très bien. Deuxièmement, c'est un ancien footballeur qui a la connaissance de la compétition de haut niveau. Donc, pour nous, il est important que nous puissions nous qualifier pour la Coupe du Monde. Pour le football ivoirien, pour le niveau que nous avons, pour la génération que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train de bâtir, parce que ces grands rendez-vous vous donnent beaucoup plus d'enseignements. Deuxième objectif, c'est la qualification pour la CAN 2019, dont les premiers matchs commencent déjà en juin.
Sori Diabaté, le vice-président de la Fédération ivoirienne de football.
Un champion du monde allemand vient tenter l'aventure aux États-Unis. De qui s'agit-il, Nico?
Eh bien, il s'agit de l'ancien capitaine de l'Allemagne, Bastian Schweinsteiger. Il a signé en faveur des Chicago Fire. Il va donc quitter Manchester United pour rejoindre la MLS, le championnat nord-américain. Le champion du monde 2014 a son actif 121 sélections, 24 buts, âgé de 32 ans, est en attente de visa. Il pourrait passer la visite médicale la semaine prochaine.
Un mot sur la NBA avant de clôturer.
Le choc de la soirée en faveur de Golden State qui a battu Oklahoma City 111 à 95.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila-Kidzan, direct du Studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington, pour aborder les dossiers de ce soir. En RDC, Jean-Marc Kambound, secrétaire général de l'UDPS, principal parti d'opposition, s'est retiré des travaux du dialogue facilité par les évêques catholiques du Congo. Quel sera l'impact de ce retrait, alors que d'autres membres de son parti et du rassemblement continuent les discussions? Eddy Issango a joint le leader du RDC-KL, Ernest Yaviro.
On sent qu'il y a de la volonté de ne pas avancer en mettant en avant des petits prétextes. Et ça, c'est qui a énervé. Il a aussi commis une erreur. Parce que pour faire une action pareille, quand il est membre du rassemblement, ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus compréhensible dans la base et dans le monde entier. C'est le fait que la bonne puisse démontrer le rassemblement et que la décision de l'attitude à adopter soit prise collectivement.
N'est-ce pas là faire le jeu du pouvoir parce que ça va prolonger les travaux du dialogue?
Non, je pense que le pouvoir a besoin, et c'est là, même le président de la CENCO l'a dit dans un discours officiel, c'est la pression. Mais cette pression ne peut pas faire un ordre discuté. Je pense que le pouvoir a besoin de pression. Et c'est une opinion partagée. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que quelqu'un est sorti que le temps va continuer. Il n'y a pas que cela. Si on arrivait à résoudre ces problèmes, ils inventeront un autre. Quand, par exemple, ils refusent que les rassemblements rencontrent le chef de l'État sans être réunifié, tout en finançant la division. Donc, on comprend qu'il y a une mauvaise foi et des gens qui sont habitués à la pression et à la malice ne peuvent céder qu'à une véritable pression. Évidemment, nous ne pouvons pas jeter les jeunes gens dans la rue où il y a des militaires qui peuvent tirer. Et nous avons vu des cas extraordinaires où il y a du camp du président qui tire sur des civils au milieu de la journée. Maintenant, on peut y aller avec des questions telles que les villes mortes, des rejets de cette situation, mais ça ne sert à rien de continuer les travaux pour les faire continuer. La population exprime son ras-le-bol. Ce que je reproche à Kaboul, c'est de l'avoir fait seul, et donc ça a moins d'efficacité, ça a une raison valable.
Comment comprendre que M. Félix Tshisekedi et les autres membres du rassemblement continuent à siéger à ces dialogues? Est-ce que cela n'est pas une scission?
Réellement, il y a des problèmes au niveau de l'UDP. Mais dans tous ces cas-là, le rassemblement a gagné à travailler chaque fois ensemble. Il y a un encerclement des opportunités au niveau même des travaux de la CENCO. On se rend compte que les dissidents, entre guillemets, du rassemblement, les gens qui ont allié à l'EIA et la MP sont tous en train de tirer sur les rassemblements dans le sens de faire traîner les choses et d'empêcher l'application de l'accord.
Ernest Yaviro, leader du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD-KL. Direction le Tchad, où l'on parle de la mise en place d'un comité technique tripartite d'études et de réflexion pour résoudre la crise sociale. Cet organe parrainé par le Premier ministre Paimi Padake Albert devra examiner les conséquences socio-économiques de la crise et de faire des propositions pour l'instauration d'une paix sociale durable. Pour la base, cette résolution ressemble à une capitulation de la plateforme syndicale qui mène les revendications. Les explications de André Kodmajingar.
Ce comité technique a pour mission de poursuivre les négociations avec les deux parties, plateforme syndicale et gouvernement, sur les deux points de revendication sur les 7 qui n'ont pas été résolus sous la médiation du Comité national de dialogue social. Ces deux points sont l'annulation de la loi 32 portant restriction de l'exercice du droit de grève au Tchad et le retrait du décret 687 portant réduction des primes et indemnités des agents de l'État. Madame le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Halingué, parle de l'importance de la mise sur pied de ce comité technique.
La pertinence de ce comité technique est de vraiment officialiser, formaliser, d'élargir. Nous sommes bien sûr en train de négocier point par point les aspects de cette crise, les moyens et les conditions pour pouvoir la juguler. Mais je crois que l'important, c'est de vraiment projeter le Tchad vers une instauration d'une paix sociale durable. Le comité technique se réunisse et chacun représente un groupe particulier pour la négociation et à chacun de prendre la responsabilité.
Pour la base, les responsables de la plateforme syndicale se sont fait piéger par le gouvernement.
Les syndicats ont fait une erreur. S'ils m'enlèvent ça, ils peuvent les endormir et ils ne savent pas.
J'appelle tous les fonctionnaires, tous les étudiants, afin que tous viennent faire un sitting au niveau de la place de la nation pour que Déby sorte du palais, vienne les rencontrer et qu'ils trouvent une solution. Un pays démocratique qui n'a pas droit à la grève, s'il vous plaît.
Il faut que les syndicalistes aussi savent que c'est nécessaire. Ils sont en train de créer les choses, c'est pas normal.
Gounou Vaima Ganfare, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, membre de la plateforme, a souligné que la signature de ce protocole d'accord est un acte de bonne foi dans toute négociation.
En matière de lutte, il y a mille et une stratégies qu'il faut adopter. Donc nous sommes conscients de ce que nous faisons. On nous jugera à la fin. Ces ministres là disent qu'ils n'ont pas le mandat de résoudre les problèmes. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Avançons un peu. Quand le Premier ministre même sera dépassé, on ira vers le Président.
Pour Mahamat Nasradine Moussa, secrétaire général de la Confédération indépendante syndicale du Tchad, ce protocole d'accord n'est pas définitif.
Ça, c'est un protocole partiel. Nous avons donné un délai de grâce d'un mois pour que le gouvernement trouve une solution aux deux points qu'on n'a pas pu trouver une solution. Mais passé ce délai, la plateforme est dans l'obligation de mettre en cause le protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement.
André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans les nouvelles technologies au Sénégal, l'usage des réseaux sociaux est en pleine mutation. Plus que de simples plateformes de distraction, Facebook, WhatsApp et compagnie sont devenus de véritables moyens de sensibilisation et d'action sociale. Le point avec Seydina Abagay, notre correspondant sur le terrain.
À Dakar, des jeunes étudiants ont choisi les réseaux sociaux pour former une structure d'entraide. Fabore Cissé, membre fondateur de l'association Diapo Diapole, explique leur mode de fonctionnement.
Au Sénégal, la communication coûte excessivement cher. C'est pourquoi on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, à savoir WhatsApp, Facebook, etc. pour communiquer. On utilise ça pour convoquer les réunions, pour des débats d'idées aussi, parce qu'on peut avoir des idées. On se dit, avant de se voir, on peut déjà y réfléchir ici, au niveau de cette plateforme WhatsApp. On en parle, on en discute et puis on essaie de voir quelles sont les meilleures solutions au problème.
Formée à partir des réseaux sociaux, l'association Diapo Diapole a développé une véritable chaîne de solidarité.
C'est une œuvre sociale. On aide les gens, les enfants les plus démunis. Ceux qui n'ont pas de toit, on essaie de leur trouver un toit. Ceux qui, même dans les écoles, nous trouvons des gens qui ne parviennent pas à satisfaire leur scolarité. Et ben, dans ce cadre-là, dans ce sens-là, on les aide à payer leur scolarité, avoir des fournitures, des cahiers, etc.
Dans le même registre, des femmes leaders ont créé une campagne sur Facebook pour collecter 200 millions de francs CFA en faveur des malades du cancer. Awasek Sissoko en est l'une des initiatrices.
On a fait un groupe privé. Donc on s'est bien concerté, c'est avec nos propres moyens. Par exemple, moi, si je me déplace avec ma voiture, les rendez-vous, le téléphone, c'est mon téléphone. Donc voilà, parce que c'est un élan de solidarité, ça veut dire que chacun donne ce qu'il a. Et donc on a fait un plan de campagne. Ce sont les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus viral, on touche beaucoup plus de monde.
En quelques mois, cette initiative citoyenne partie des réseaux sociaux a déjà porté ses fruits.
Et vraiment, on est vraiment content parce que les Sénégalais se sont vite sentis concernés parce que le cancer touche presque maintenant, c'est vraiment un fléau et il faut vraiment aller à l'hôpital pour s'en rendre compte.
Au Sénégal, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication de masse pour les acteurs de la vie sociale. Au-delà du caractère ludique, ils sont utilisés pour alerter l'opinion publique et mener des actions en faveur des nécessiteux. C'est Dina Abagay, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'Université de la Californie du Sud accueille chaque année le Sommet africain sur l'économie et le développement. Cet événement réunit des dirigeants, experts et membres du gouvernement pour échanger avec leurs homologues aux États-Unis. Cette année, tous les participants africains à cette conférence ont été privés de visa. Reportage à Los Angeles de Michel Ken, présenté par Claire Morin-Gibourg.
Le sommet économique africain est généralement une occasion pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise d'enrichir leur réseau pour renforcer les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cette année, l'organisatrice de l'événement, Marie Flowers, est très déçue.
Habituellement, 40% des personnes que nous invitons n'obtiennent pas de visa. Cette année, 100% des gens ont été rejetés. Aucune délégation de pays ne peut venir. C'est triste et décourageant.
C'est la quatrième édition que Marie Flowers organise, mais cette année, aucune ambassade américaine n'a délivré de visa à la centaine de personnes qui devaient venir de Sierra Leone, de Guinée, du Ghana, du Nigeria, de l'Éthiopie ou d'Afrique du Sud. Marie Flowers ne cache pas sa déception.
Ce genre de choses rend la situation très difficile et il est quasiment impossible pour nous de travailler.
Elle n'a aucune idée pourquoi les visas ont été systématiquement refusés cette année. Mais elle soupçonne que les décrets migratoires de la nouvelle administration Trump ont rendu la situation encore plus compliquée. Elle a interpellé plusieurs avocats et législateurs, y compris l'ex-députée Diane Watson.
Il y a des ambassadeurs qui étaient censés venir à ce sommet et qui ont été privés de visa. Leurs demandes de visa ont été rejetées. Comme vous le savez, sous l'administration actuelle, ils limitent le nombre de personnes venant du continent africain vers les États-Unis. Ils leur refusent les visas.
Madame Watson affirme avoir contacté le département d'État pour obtenir des informations, mais le département d'État n'est pas autorisé à discuter au cas par cas. Mais dans le monde entier, des témoignages font état de refus de visa par les autorités américaines, même s'il est difficile de vérifier toutes ces informations avec certitude. Les données du département d'État ne sont disponibles que jusqu'à l'automne 2016. Nous retrouvons Marie Flowers.
Je dois dire que la plupart d'entre nous estimons que c'est une discrimination faite aux Africains. Nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. Les personnes rejetées sont des hommes d'affaires qui ont des liens avec le continent.
Beaucoup de personnes espéraient faire des affaires lors de cette conférence, mais peu d'activités a eu lieu cette année. Les organisateurs espèrent ne pas avoir à jeter l'éponge. Le décret migratoire de Donald Trump ne s'applique qu'aux trois pays africains, la Libye, la Somalie et le Soudan. Il est encore difficile de savoir pourquoi les refus de visa ont été multipliés sur le continent.
I know you're gonna dig this. You know, I've known you for some time, but I still get butterflies in my tummy when I see you. Dice on beat production. Just make my heart beat.
I know you gonna dig this.
Beauty, patience, wisdom, respect. You're a true African woman, and this song is just to explain how I feel about you. Listen, ma, you make my heart go. Ma, 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 ma,
you're so beautiful.
Zako menso yako mendo yako mami was meant for me.
Zambian woman, Kali Shuvan and Tambi, no premarital sex, Kali Shuvan.
Voilà un morceau de Makito pour terminer en beauté. C'est la fin de cette édition. La mise en onde de l'audio, Georges Léonard Sagno et Sims Lamimou. À la console, Wojtek Zoniak. À la présentation, Eric Manila-Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir. Superstar sanga puma front page narende chalo chose mami mona maireji kose na kuyuke no visa tiwo fyareji na ma dvd mu fridge de full cafeti kose la liquata mami you the one missing the swag and la la.